Il est 19h. Merci d'écouter Europe 1. Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard.
Elena Morna, une belle fin de mois côté météo.
Bah oui, 4 journées douces, calmes, avec du ciel souvent bleu sur la moitié sud, quelques passages nuageux au nord, nuages plus nombreux sur le nord-est jusqu'en Île-de-France demain après-midi. Des températures qui remontent après la fraîcheur matinale. On aura 11 à 20 degrés de Dunkerque à Perpignan, 13 à Lille, 14 à Paris-Strasbourg, 16 à Quimper ou Bastia. Bastia où le vent et les pluies vont cesser cette nuit, 17 à Bordeaux, Toulouse et Lyon. Alors chaque jour, on va gagner quelques degrés d'ici samedi, puis déstockage d'air froid qui arrive tout droit du pôle Nord. Ça sera pour la semaine prochaine. Les réserves sont encore bien pleines là, en matière d'air froid. Et c'est souvent comme ça, au printemps, on liquide les stocks. La semaine prochaine, la première semaine d'avril, s'annonce donc hivernale.
Merci beaucoup, Elena. 19h02, je vous prie de bien vouloir excuser ce léger retard ce soir sur votre grand journal. Marion Calais pourtant est là, depuis 19h elle est prête pour le journal. Rebonsoir Marion, à la une, le président Bouteflika lâché par son armée.
Oui, c'est un de ses proches, le général Salah, chef d'état-major, qui a demandé cet après-midi à ce que le chef de l'État soit déclaré inapte, estimant qu'il s'agit d'une solution répondant aux revendications légitimes du peuple mobilisé depuis un mois. Mathieu Bock, vous êtes à Alger pour Europe 1. Cette prise de position, elle satisfait plutôt les Algériens que vous avez pu rencontrer?
En effet, même si cette annonce n'a pas été accueillie par des concerts de klaxons et une foule en liesse, les Algériens que j'ai rencontrés se sont montrés plutôt satisfaits. Ils l'attendaient, ils l'espéraient, cette nouvelle, même si certains restent méfiants.
La nouvelle vient de sortir à l'instant. On ne peut pas encore savoir, mais après tout, nous, ce qu'on demande, c'est des changements. C'est un changement radical. Nous, ce qu'on veut, c'est que Bouteflika sorte. Et on dirait que c'est ce qui est en train de se passer. Donc on espère qu'on n'a pas fait tout ça pour rien.
Mais au vaut tard que jamais, on salue la casquette, on salue les militaires. Ils ont sauvé l'Algérie encore une fois.
Tout doit changer. Il n'y a pas que le changement du président. On enlève un président, on ramène un autre président. Pour ça, rien ne va changer.
Ah là, c'est le tournant. Je pense que le peuple algérien ne va pas faire marche arrière. Ils vont tomber un derrière un. Hein. Le peuple algérien ne va pas s'arrêter là. Hein.
Alors attention, cela ne veut pas dire que tout va changer dès demain en Algérie. Débute maintenant une période un peu complexe où le Conseil de la Nation, c'est-à-dire le Sénat algérien, prend la main et s'engage à organiser de nouvelles élections dans les 3 mois qui viennent. Ce qui fait dire aux manifestants qu'ils ne vont pas lâcher la rue. Il y aura donc très vraisemblablement de nouvelles manifestations monstres à travers le pays vendredi.
Mathieu Bock, Alger. Pour Europe 1. Ce sont plus de 800 salariés qui attendent d'être fixés. Le tribunal de commerce de Nanterre se prononcera finalement vendredi sur l'avenir du papetier Arjo Wiggins. Décision reportée aujourd'hui après le dépôt d'une offre de dernière minute pour l'un des 3 sites, celui de Bessé-sur-Braye dans la Sarthe. Offre portée par le directeur de l'usine, mais pas encore totalement financée. Chacun reste donc prudent. Emmanuel Baudry est le délégué CFE-CGC d'Arjo Wiggins.
Cette offre nous a été présentée comme l'ultime façon de sauver l'usine, en fait. Elle a été faite assez rapidement, le week-end. Elle présente l'avantage d'être posée sur des volumes de vente possibles, puisque les clients sont derrière nous. En revanche, elle demande beaucoup moins de personnel pour être réalisée. L'usine repartirait avec seulement 200 salariés, alors qu'au départ, on avait un projet pour 423. Et il resterait finalement 6 millions à trouver. C'est une course contre la montre. Tous les acteurs locaux ou nationaux sont contactés pour apporter leur soutien.
Le délégué CFE-CGC d'Arjo Wiggins, joint pour Europe 1 par Anne-Laure Jumet. Une vingtaine de personnes toujours en garde à vue, audition suite à des violences visant des Roms la nuit dernière en Seine-Saint-Denis. Roms désignés sur les réseaux sociaux comme responsables de tentatives d'enlèvement d'enfants. La préfecture de police dénonce une rumeur. Elle quittera le gouvernement demain à l'issue du Conseil des ministres. Nathalie Loiseau investit cet après-midi comme tête de liste de la République en marche pour les européennes. Une majorité élargie au centre, à la société civile et euro-convaincue pour Nathalie Loiseau.
Ce qui nous réunit, c'est que nous sommes tous des Européens convaincus, des Européens exigeants, sûrement des Européens impatients et sûrement pas des Eurobéats. Cette liste, c'est la liste de ceux qui croient que les Français ont besoin d'une Europe plus forte pour que la France soit plus forte. C'est ceux qui vont dans une élection européenne avec un vrai projet pour nos compatriotes, avec un vrai projet pour l'Europe et pas pour un petit tour de piste politiciens. Nous voulons être les avant-centres de l'Europe.
Nathalie Loiseau, micro-Europe 1 de Virginie Riva. Sur la liste également, l'écologiste Pascal Canfin, la navigatrice Catherine Chabot ou le président des jeunes agriculteurs Jérémy de Serles. Et à l'échelle européenne, justement, cette décision aujourd'hui, le Parlement a adopté la réforme du droit d'auteur pour une meilleure rétribution des artistes et des médias sur Internet. Un texte qui a beaucoup agité ces deux dernières années dans les couloirs du Parlement. Une victoire contre les géants du numérique pour Virginie Rosière, des radicaux de gauche.
C'est une victoire pour la culture européenne, pour les artistes, pour la presse. Une victoire aussi pour la souveraineté européenne, donc une victoire des citoyens européens face aux géants du numérique américains. Je pense que c'est un précédent important pour dire que c'est terminé le temps où les géants du numérique étaient dans l'impunité totale et fixaient seuls leurs propres règles. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu une réaction aussi virulente pendant des mois et des mois. Un lobbying d'une ampleur, mais d'une intensité que je n'avais jamais vue, y compris des menaces sur les députés. Parce que c'est tout un modèle économique des GAFA qui est remis en question. Des monopoles numériques en fait, qui se posent en monopole de l'intermédiation, de la distribution, et qui du coup captent tous les profits et n'en redistribuent aucun à leurs fournisseurs. Donc c'est une satisfaction encore plus grande d'avoir réussi malgré ça. Cette violence-là aussi nous dit peut-être qu'on est sur la bonne voie et que ce qu'on fait a véritablement un impact sur les GAFA.
L'eurodéputée Virginie Rosière au micro Europe 1 de Théo Manval, le Parlement européen, qui s'est aussi prononcé sur la suppression du changement d'heure en 2021. Enfin, pour la première femme et le prochain homme sur la Lune seront américains. Le volontarisme affiché ce soir par le vice-président Mike Pence qui promet un retour de ses astronautes sur la Lune, donc dans 5 ans.
On verra, hein. Ouais. On verra. Il faut surveiller les Chinois aussi, hein, qui
2023-2024, la même échéance à peu près.
Merci Marion Calais, merci beaucoup. Il est 19h07, vous êtes sur Europe 1. À suivre, l'invité politique ce soir, l'interview de Sonia Mabrouk avec Mounir Majoubi, secrétaire d'État en charge du numérique. On revient dans quelques secondes sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Bonsoir Sonia Mabrouk.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Votre invité est secrétaire d'État en charge du numérique, Mounir Majoubi. Au cœur de votre interview, une charte pour protéger nos PME-TPE, le rapport à charge sur les fonctionnaires et bien sûr les européennes.
Bonsoir Mounir Majoubi.
Bonsoir.
Nathalie Loiseau, investie tête de liste pour votre parti, La République En Marche, image de sérieux, expertise sur l'Europe, voilà pour le verre à moitié plein. Mais un candidat, c'est le terrain, c'est le concret, c'est la proximité avec les gens. Elle a encore des efforts à faire dans ce domaine.
Moi, je la connais. Je travaille avec elle depuis presque 2 ans. Et moi, Nathalie, je peux vous dire, c'est la femme qui a toujours la capacité à avoir le courage d'aller sur un sujet. Des sujets nouveaux, vous savez, elle est un ministère de l'urgence avec des cas qui arrivent en permanence, un ministère de la complexité. Moi, à chaque fois qu'au niveau européen, je me suis posé des questions, que je me suis dit comment je pouvais avancer, elle a toujours eu le bon conseil, la bonne tactique. Vous savez, Nathalie Loiseau, c'est une femme qui, depuis près de 20 ans, a fait tous les postes des affaires étrangères.
Quelle éloge, quelle éloge. C'est la candidate idéale.
Et elle a été, n'oubliez pas, la directrice d'une école. Qu'elle a transformé.
Et quelle école, Léna ?
Qu'elle a transformé, première directrice à transformer, à numériser, à changer.
Mais ce n'est pas un reproche, Mounir Majoubi. Quand on dit compétence sur les dossiers, technicité reconnue, est-ce que ce n'est pas le défaut d'ailleurs d'une grande partie de la Macronie ? Le contact, la proximité, le terrain, la vraie vie des gens.
Écoutez, vous parlez à un député du 19e qui passe sa vie sur les marchés, donc j'y crois très fort. Mais vous savez, Nathalie Loiseau, c'est cette femme empathique. C'est celle qui se met dans les chaussures de l'autre pour comprendre où il en est, pour comprendre ce qu'il cherche à faire, pour essayer de lui apporter des solutions. Vous allez voir, Nathalie Loiseau, ça va être une candidate qui, au fur et à mesure de la campagne, montrera tous ces aspects que nous avons la chance de connaître parce qu'on a travaillé avec elle, mais que tous les Français vont découvrir.
C'est un duo avec l'écologiste Pascal Canfin. Alors, ses anciens amis verts parlent d'un scalp vert, d'une caution verte sur votre liste.
Moi, je parle surtout de rassemblement, d'engagement. Monsieur Canfin, vous le savez, depuis plusieurs mois, plusieurs années, a toujours exprimé une vision progressiste de l'environnement qui est une version très engagée, sans aucune concession, et en même temps qui se pose la question de comment on fait vraiment pour que ça
en
arrive.
En même temps, il est très en même temps d'ailleurs, parce qu'on pensait chez les Verts, il est chez vous, il est en même temps.
Et en tant que dirigeant d'une ONG, il n'a jamais cherché à être dans le sensationnalisme ou dans les idéologies infaisables. Lui, il est pour une écologie de proximité, une écologie du quotidien, qui fait que dans votre vie à vous, dans la mienne, dans nos vies, dans notre quotidien, on peut vraiment changer les choses. Parce que l'écologie idéologiste, celle où on se pose des questions, celle où on annonce des combats insurmontables.
Vous voulez dire celle de Nicolas Hulot, quand il était votre ministre dans votre gouvernement ?
Non, je ne compare pas, je dis juste que
j'essaie de comprendre.
Canfin, c'est le pragmatique de l'écologie. C'est celui qui fait que demain, ça ira mieux.
Mounir Majoubi, votre liste aux européennes s'appelle, la liste de votre parti, Renaissance. Mais quelle renaissance ? Ça fait déjà quelques temps que vous êtes au pouvoir en France et donc Emmanuel Macron agit sur la scène européenne. S'il y avait une renaissance, ce serait déjà le cas. On dirait que tout commence maintenant.
Eh bien oui, tout commence maintenant parce que nous avons cette chance incroyable de pouvoir mettre au pouvoir à Bruxelles une nouvelle génération de personnes compétentes qui ont envie de transformer l'Europe et de lui redonner de l'ambition.
Ça veut dire que ceux qui sont là ne sont pas compétents.
Ça veut dire que
vous venez de
trop
me dire
longtemps,
que ceux qui vont venir vont être compétents.
Je vais vous dire quelque chose, je vais être très honnête avec vous. Très longtemps, les partis installés envoyaient aux européennes les gens qu'ils n'avaient pas pu caler à d'autres élections. Aujourd'hui, si vous regardez les 30 personnes, les 30 que vous voyez sur cette liste, ce sont 30 personnes qui chacun a son super pouvoir. Chacun a son expertise de proximité, son expertise thématique. Chacun vient avec une proximité territoriale. Vous avez vu, ce n'est pas une liste de Parisiens. Chacun a une expertise thématique. Il y en a un qui est agriculteur, l'autre qui était une sportive, l'autre qui était une juriste experte du droit européen. Cette bande-là réunie, moi j'en attends énormément.
Dans les sondages, c'est un duel qui s'est installé entre La République En Marche et le Rassemblement National, je dis bien dans les sondages. Vous entretenez ce clivage, Mounir Majoubi, de manière générale, mais est-ce que ce n'est pas dangereux, comme s'il n'y avait pas d'autre alternative? C'est vous le chaos, si vous deviez résumer.
Ces élections européennes seront bien plus profondes que cela. L'appel à la renaissance européenne, ça n'est pas simplement de dire « attention, là il y a le mal et nous serions le bien ». C'est de dire...
C'est ce qu'on a cru comprendre en écoutant le président Macron.
Non, c'est vous dire qu'il y a des sujets qui sont une priorité absolue. Il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Et très souvent, les partis qui sont vraiment à l'opposé du spectre sur chacun des sujets... sur la crise migratoire, sur l'innovation et la politique d'innovation de l'Europe, sur la façon de protéger les emplois, sur tous ces sujets-là, oui, il existe une opposition entre des progressistes réalistes qui veulent véritablement redonner un pouvoir à l'Europe.
Le progressisme, de l'autre côté, les populistes, les nationalismes.
Non, et des gens de l'autre qui n'ont aucune volonté pour l'Europe, qui ne rêvent que d'une chose, c'est que l'Europe ne serve à rien, qui ne rêvent que d'une chose, c'est que ces élections amènent le chaos européen, que nous ne soyons pas capables de nous mettre d'accord, mais ça, on sait où ça nous mène. Regardez la crise migratoire que nous vivons aujourd'hui. Regardez ce que c'est que les Dublinés, par exemple. Les Dublinés, c'est le résultat de l'échec du dialogue européen. Parce qu'on n'a pas été capable de se mettre d'accord, eh bien, ce sont des vies humaines que l'on transfère d'un pays à un autre, parce qu'ils ont eu la malchance de passer par un côté plutôt qu'un autre. Ça arrive quand on n'est pas capable de se mettre d'accord sur ces sujets. Eh bien, ces gens-là, ces nationalistes, n'ont pas
verra.
Du tout envie
on
qu'on se mette d'accord.
On va juger l'épreuve des faits. En Europe, il y a des fonctionnaires, les fonctionnaires européens. Comme en France, il y a des fonctionnaires, honnêtement. Mounir Majoubi, je sais que vous êtes rattaché au ministère des Comptes publics. Vous n'avez pas été surpris par le rapport qui épingle les fonctionnaires. Vous saviez qu'il y en a qui ne travaillent pas autant qu'ils devraient.
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'aime les fonctionnaires et j'ai depuis 2 ans beaucoup travaillé avec eux. Vous savez, les fonctionnaires, ce n'est pas eux qui sont épinglés dans le rapport. C'est nous, c'est-à-dire ceux qui avons le pouvoir de réorganiser l'administration. Ce que ce rapport dit, c'est que les administrations sont mal organisées, que ce soit au niveau territorial.
Vous aviez besoin d'un rapport pour le savoir ?
Que ce soit au niveau territorial ou au niveau national.
On avait besoin d'un rapport pour savoir ?
Il y a des administrations qui fonctionnent très bien. Et il y en a d'autres qui sont moins bien organisées.
La question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire maintenant ?
Ce ne sont pas chacun des fonctionnaires qui ont décidé de travailler moins de 35 heures. C'est ceux qui ont le pouvoir de diriger ces services qui, au fur et à mesure des années, ont oublié qu'ils avaient une exigence de performance. Donc aujourd'hui, les Français, parce que ce sont les Français qui payent, eux, ils attendent beaucoup de leurs fonctionnaires. Parce que vous savez quoi ?
C'est important ce que vous dites. Exigence de performance et vous, exigence d'action maintenant.
Exigence d'action. Qu'est-ce qu'attendent les Français de leurs fonctionnaires et de leurs services publics ?
Efficacité.
Et plus de services au public, plus de services au service de l'intérêt général. Et ça, c'est à nous de nous assurer qu'on ne s'organise pas de telle manière que beaucoup de fonctionnaires travaillent juste pour la structure elle-même. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent travailler pour les Français. Et donc maintenant, notre responsabilité, et elle va être lourde, et ce matin, Gérald Darmanin a expliqué, ça va être compliqué, ça va être long, mais si tous ensemble on prend cette responsabilité, on y arrivera.
Mais justement, vous parlez tous ensemble quand vous vous y mettez, ça marche pas toujours. Une charte de bonne conduite a été signée entre des plateformes d'e-commerce et des PME françaises, on va le préciser à nos auditeurs, des PME qui souffrent, qui se plaignent d'être déréférencées ou très mal référencées sur ces plateformes. Alors dont acte, vous l'avez signée cette charte et il y a des signataires, mais évidemment, on voit le verre à moitié vide, Mounir Majoubi, et il manque qui ? Amazon, un acteur majeur. Vous avez exprimé votre colère, il paraît qu'ils ont tremblé.
Écoutez,
Amazon
moi,
a tremblé, oulala.
Ne vous moquez pas, je suis très
pas
en colère
tout.
Contre eux parce que ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. Et quand quelqu'un
et
avec
après,
qui vous travaillez...
Et après, vous êtes en colère.
Mais laissez-moi aller jusqu'au bout.
Monsieur le ministre, et après.
Et après quoi ? Et bien après, on fait la loi. C'est-à-dire que quand une charte volontaire ne fonctionne pas, on avance par le droit et on crée des obligations. Et vous savez quoi ? Ça fait 2 ans que la France, elle est leader au niveau européen pour la mise en place du règlement P2B. Plateforme to business. À titre personnel, je me suis engagé tous les mois avec mes collègues pour m'assurer que ça avançait. Platform to Business, ça va être voté dans quelques jours et ça va devenir une réalité en 2020.
Et c'est positif.
Et c'est très positif, ça va protéger les PME.
Quand ça marche.
Et ça va s'appliquer à Amazon. Mais ce que j'avais voulu, c'est plutôt qu'on attende 2020 et que les 200 000 PME françaises qui vendent en ligne attendent de mieux se faire traiter d'ici 2020, qu'on fasse une charte en France, qui va faire que dès aujourd'hui, ça ira mieux pour elles, qu'elles ne se feront pas déréférencées. Vous savez ce qu'il y a dans la charte aussi ?
Oui, mais ça reste des David français face à des Goliaths de l'e-commerce que vous n'avez pas réussi à convaincre.
Vous savez ce qu'on ajoute à l'intérieur ? L'obligation d'avoir un être humain qui vous répond au téléphone quand vous avez un problème. Mais dès 2020, les Goliaths, comme vous les appelez, ils devront respecter le droit et la loi, et ça, je n'en ai aucun doute. Mais vous savez, aujourd'hui, vous voulez parler du verre à moitié vide, je voudrais parler du verre à moitié plein. Il y a la majorité des acteurs du e-commerce qui ont signé, qui représentent la majorité des actes d'achat. Il y a des entreprises comme Le Bon Coin, comme Cdiscount, oui, comme Fnac Darty, comme Boulanger, comme toutes ces entreprises-là.
Pardonnez-nous de citer Amazon qui n'est pas là et son alter ego chinois Alibaba, mais vous avez raison, pour le reste, ils ont signé, c'est important pour nos PME et TPE françaises.
Et ça veut dire que pour toutes les PME et TPE françaises, elles vont pouvoir choisir de travailler avec ces plateformes et les consommateurs pourront aussi choisir entre des plateformes qui ont envie de protéger les PME et celles qui n'ont pas envie de le faire.
Mounir Majoubi, quand on vous entend depuis le début de cette interview, et pour conclure, on entend le secrétaire d'État, mais aussi la voix du
secrétaire d'État au numérique, passionné par son métier.
Du candidat, bien sûr, une élection après l'autre, il y a les européennes, mais on entend poindre déjà celui qui pense à la bataille d'après. Mais c'est tout à fait normal, d'ailleurs, d'y penser.
Vous parlez de Paris. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, aujourd'hui, mon combat, vous l'avez entendu, ce sont les européennes.
C'est d'être ministre.
Moi, je veux que ces européennes, on les gagne. Et en tant que ministre, vous avez vu les transformations numériques qu'on a à mener.
Laissez-moi vous poser une dernière question.
Allez-y.
Pourquoi alors avoir exprimé tout haut vos ambitions ? Pourquoi ne pas attendre, puisque vous voulez qu'on ne vous pose pas la question en interview ?
Mais justement, pour qu'on puisse se dire, j'ai voulu clarifier les choses en disant, vous savez quoi ? Oui, j'en ai très envie, je suis né dans cette ville, je l'aime, je suis
alors
prêt à tout lui donner.
Alors c'est normal qu'on vous pose la question dès à présent.
Mais moi, j'adore que vous me posiez cette question. À chaque fois qu'on me parle de Paris, ça me rend heureux. Ce week-end, vous me retrouverez partout sur les marchés. Tous les dimanches, je suis sur les marchés de Paris parce que j'aime cette ville. Mais vous savez quoi ? On en reparle en juin.
La bataille est engagée. Merci, Mounir Majoubi. Peut-être encore un mot, Mathieu Béliard,
oui,
sur la directive européenne.
La directive de réforme du droit d'auteur, Mounir, oui, Majoubi. C'est une décision que vous saluez du Parlement européen. J'imagine, je voulais simplement vous poser la question parce que moi-même, je ne maîtrisais pas assez le sujet. J'ai découvert que les défenseurs d'un Internet libre protestaient parce que ça pourrait empêcher l'émergence de nouveaux artistes, par exemple. Est-ce qu'on est en train d'installer des règlements de censure ?
C'est le contraire. Et moi, je voudrais rassurer les associations de liberté individuelle qui se sont retrouvées à être contre ce texte et en fait se retrouver dans le même camp que Google et que toutes les autres grosses plateformes. Vous savez qu'aujourd'hui, ce vote du Parlement, c'est une victoire de la démocratie. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de fric investi par les géants du numérique pour empêcher que ces députés européens votent cette loi. Et même des collégiens, que je suis allé voir dans leur établissement, ont été capables de m'interpeller sur ça parce qu'ils avaient vu une publicité YouTube qui leur disait « Attention, l'Internet ne sera plus jamais comme avant ». Moi, je veux dire à toutes les associations
gros
qui
Google,
soutiennent
YouTube,
Internet aujourd'hui, n'ayez pas peur, soyez exigeants. Moi, je rendrai des comptes s'il le faut. L'Internet ne change pas de nature. On ne va pas fliquer tous les utilisateurs d'Internet. Par contre, oui, on va aider les auteurs.
Vous allez rendre compte comme pour Amazon. Là encore, on verra l'épreuve des faits.
À l'épreuve des faits, on se retrouve. Rendez-vous est pris.
Merci, monsieur le secrétaire d'État. Merci à vous.
Merci beaucoup, Mounir Majoubi. Merci, Sonia Mabrouk. 19h21.
17h, 20h. Mathieu Béliard sur Europe 1.
Le rappel de l'info avec Marion Calais.
L'Europe en ligne de mire à 2 mois des élections. La présentation de la liste de La République En Marche, liste emmenée par Nathalie Loiseau, jusque la ministre des Affaires européennes. Elle quittera le gouvernement après le Conseil des ministres demain. C'est un fidèle du président Bouteflika, mais après un mois de contestation, le chef de l'armée algérienne demande à ce que le chef de l'État soit déclaré inapte. Et puis, il aurait agi par dépit amoureux. Un suspect placé en garde à vue 2 mois après l'incendie de Courchevel. Feu qui a fait 2 morts dans un immeuble occupé par des saisonniers.
Merci Marion Calais. Notre débat Santé publique France nous alerte sur les ravages de l'alcool. Ça n'est pas la première fois. Aujourd'hui, nous apprenons que plus d'un quart des adultes en France ont un problème de consommation d'alcool. Mais il n'y a pas que la consommation des Français. Il y a aussi la question du dépistage et puis du lobbying quand il s'agit de durcir la loi. La France a-t-elle un problème avec l'alcool ? Beaucoup d'appels au 39-21. On va prendre vos témoignages. Je vous présente mes invités dans un instant et Benjamin Muller va s'installer en studio. Restez bien sur Europe 1.